Les travaux qu'on fait, c'est des travaux expérimentaux en physique fondamentale. On va exploiter la capacité qu'on a à manipuler les atomes, donc le mouvement des atomes, à l'aide de faisceaux laser. La qualité qu'on a sur les faisceaux laser, la compréhension qu'on a de l'interaction entre les faisceaux laser et les atomes, elle permet d'aller sonder les propriétés quantiques des atomes individuels. Ça veut dire que à ce niveau de précision, à ce niveau de détail, dans nos expériences, on considère les atomes non plus comme des petites billes microscopiques, mais comme une onde qui est un peu délocalisée, comme une onde optique ou une onde acoustique, une onde à la surface de l'eau. Et ces ondes, qui sont donc des ondes maintenant de matière, des ondes atomiques, qui est une prédiction de la mécanique quantique, qu'on appelle également dualité onde-corpuscule. Donc ce comportement ondulatoire, il permet de créer des expériences qu'on appelle des interféromètres atomiques. Il y a des interféromètres en optique. Par exemple, on a entendu parler de l'interféromètre Virgo et LIGO qui a permis de détecter les ondes gravitationnelles. Et bien là, on fait le même type d'expérience, sauf qu'au lieu d'utiliser des lasers, des ondes optiques, on utilise des ondes atomiques. Donc là, on comprend qu'on a maintenant, on exploite la mécanique quantique pour faire un instrument de mesure qu'on appelle les interféromètres atomiques. Cet instrument de mesure, on peut montrer qu'il l'offre de la sensibilité à d'autres effets pour lesquels on n'est pas sensible avec des ondes optiques. Et notamment, les atomes, ils ont une masse, donc ils vont être très sensibles aux forces de gravitation. On va exploiter une autre propriété intéressante des atomes, c'est qu'ils sont constitués d'autres particules encore plus élémentaires, qui sont des particules chargées, donc chargées négativement comme l'électron, ou positivement comme le proton. Et ça, on peut, grâce à ces interféromètres atomiques, on peut sonder exactement quelle est la manière dont sont constitués les atomes. Comme on fait notre interféromètre atomique, le résultat de cette expérience, si on rajoute, en plus là, de nos manipulations avec des faisceaux laser sur les ondes atomiques, si on rajoute d'autres champs électriques ou magnétiques, eh bien, on va avoir une sensibilité à la charge électrique, à la charge électrique des atomes. Donc la théorie habituelle, standard, c'est que finalement la charge des électrons est exactement opposée à la charge des protons. Souvent cette image là où on voit un noyau atomique chargé positivement avec des électrons qui gravitent autour de cette charge positive, et la somme de toutes ces charges électriques et positives est nulle. On dit que l'atome est neutre. Et si je me débrouille bien, je peux trouver une situation dans laquelle le résultat de mon expérience d'interférométrie atomique sera nul si les atomes sont neutres. Et au contraire, s'ils ont une toute petite charge, eh bien, alors on dira qu'on a détecté une neutralité de la matière qui était des atomes qui mettraient en défaut la neutralité de la matière. Et les questions qu'on pose sur la manière, sur ce que c'est qu'une charge électrique positive, négative, la neutralité de la matière, ça c'est des choses très fondamentales. Et en fait là on prend un des problèmes qui semble être très solidement compris et testé expérimentalement. Et comme on a un outil qui permet d'aller tester encore plus finement cet aspect-là, eh bien, on se dit que on va tester pour voir si c'est vraiment vrai, hein, avec un niveau de certitude encore plus grand. On veut juste repousser un petit peu la certitude qu'on a sur la neutralité de la matière.